Nicodème est un grand, un chef, un savant. Il est reconnu par tous et n'a rien à prouver. Il connaît la loi de Dieu mieux que quiconque et la met en pratique à perfection. Oui, il est pharisien, nous dit l'Évangile. Nicodème sait. Oui, mais tous ses savoirs semblent rester à la surface, sans atteindre son cœur. Il sait, mais au fond, il n'y croit pas. Le chemin de la tête au cœur ne s'est pas fait. C'est peut-être ainsi que l'on peut expliquer que le chef choisit la nuit pour aller voir Jésus. Il sent ce manque, il entend son cœur vide, qui ne trouve pas de réponse dans ses nombreux savoirs encyclopédiques. Lui qui habituellement sait tout, les pourquoi et les comment, il part ici d'un élan de cœur vers ce Jésus qui se fait connaître à beaucoup. Nicodème est un homme tiraillé entre son apparence, ce qu'il donne à voir de lui, cultivé et lisse, et le fond de son âme, imbibé de questions et de doutes. Il est là, Nicodème, presque comme nous tous, partagé entre notre beau visage donné et notre âme intérieure compliquée. Cette nuit-là, il rencontre Jésus. Ce Jésus est un homme bien étrange. Il renverse l'ordre établi et bouscule tous les codes. Que demande Jésus à Nicodème, les jeunes ? Vous vous rappelez ? Qu'est-ce que dit Jésus à Nicodème ? Il te faut... Très bien. Il te faut naître de nouveau. Il l'invite à naître de nouveau, à changer son regard, à s'élever, à ne pas se cantonner à ses lois, à ses questions ou à ses doutes. Il l'appelle à ne plus vivre en homme seulement, mais à regarder plus haut, à ouvrir son cœur et son esprit au souffle de Dieu que personne ne maîtrise, nous dit le texte. Cette demande de Jésus fait écho pour moi dans deux cantiques. Le premier, « Mon ancre et ma voile », que vous connaissez bien, où nous chantons à un moment donné « Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. » C'est exactement ici ce que Nicodème aurait pu chanter suite à la demande de Jésus. Jésus, le Christ, nous appelle à sortir de notre glu terrestre pour nous élever vers le spirituel qui fait partie aussi de nos vies et nous constitue tout autant. Le deuxième cantique, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. C'est ce que Jésus aurait pu dire à Nicodème. Tu ne peux pas vivre uniquement de contingences matérielles. Elles existent, bien sûr, et elles te constituent, mais ta dimension spirituelle, celle qui dépasse tous nos côtés humains, existe aussi et doit pouvoir s'exprimer avec autant de force. Alors, les jeunes du Caté, en cœur, vous allez répondre à cette question. Dimanche dernier, qu'est-ce que nous avons fêté ? Ok. Là-haut, parce qu'il y a les troisième année, ils se sont mis là-haut. Ça y est, ils sont affranchis des lois. C'est bon pour vous aussi, Pâques, dimanche dernier ? Ouais ? Ok. Alors, Pâques, on le fête aujourd'hui aussi. On le fête aujourd'hui avec vous, les familles, parce que peut-être que dimanche dernier, vous n'avez pas pu venir au culte. Mais en fait, on ne fête Pâques chaque dimanche. On peut même le fêter chaque jour. Alors pour nous, si nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle hors norme, la vie plus forte que tout, nous sommes appelés aussi nous-mêmes à naître de nouveau. Si nous fêtons la venue d'un monde nouveau à Pâques, d'un monde où la vie triomphe de la mort, et ce, dès aujourd'hui, alors de notre côté aussi, nous sommes invités à choisir de lever nos yeux et de suivre le chemin du ressuscité. Si vous venez au culte, n'en doutez pas, le chemin est déjà entamé pour vous. Vos yeux se sont déjà décollés de vos échecs, de vos enfermements ou de vos tristesses. Si vous êtes là chacun ce matin, c'est que le Christ a déjà creusé en vous un sillon de vie. Mais c'est à nous ensuite de l'entretenir, cette vie qui nous est donnée, de la protéger, de la nourrir, de la faire fructifier, de la faire partager. J'ai pensé ici aux préparations de couple lors des bénédictions de mariage. Nous échangeons toujours longuement dans les entretiens sur l'engagement. Le mariage, à un temps T, n'est pas une garantie pour l'avenir, ni le moment où nous devons baisser les bras et dire « ça y est, c'est fait ». S'engager auprès de son épouse, son époux, c'est promettre de tout faire pour entretenir cet amour. Le regarder, lui parler, le faire vivre tout simplement. Et il en est de même pour la vie que Dieu nous donne. Il nous donne tout, mais c'est à nous, avec la force de Dieu, avec le pardon renouvelé et l'espérance reçue, de nous en emparer. À nous de naître de nouveau, de lever nos yeux pour vivre avec les autres, tous nos frères en humanité. La fête de Pâques se manifeste ici, chez nous, dans nos sociétés, avec des... Merci. Et c'est un magnifique symbole. Nous l'avons vu avec les enfants, ils portent en eux la vie. Et en fait, les œufs représentent le renouveau depuis très longtemps, même bien avant le christianisme ou bien avant le judaïsme. Est-ce que vous saviez que dans les récits mythologiques... En Finlande, la naissance du monde est vue comme sortie d'un œuf. D'après vous, de quand date cette coutume d'offrir des œufs au moment du printemps, renouveau après l'hiver? Est-ce que vous avez une idée? Les adultes, peut-être, ça c'est plus difficile. Oui. Moins 500, c'est précis. C'est, voilà, en gros, en très gros, on est à peu près dans ces eaux-là. Ça date de l'Antiquité. On retrouve des traces en Égypte, en Perse, chez les Gaulois. L'œuf, symbole du cycle de la vie, fait partie aussi de la tradition juive, où les œufs durs sont mangés lors du repas de la Pâque. Alors vous entendez, j'ai dit, la Pâque, pour la Pâque juive, c'est Pâque sans S, et la Pâque chrétienne, il y a un S. Voilà, c'est comme ça qu'on les distingue. La fête de la Pâque pour les Juifs commémore la sortie d'Égypte, la libération du peuple hébreu de l'esclavage. Dans l'Église chrétienne, la coutume d'offrir des œufs décorés à Pâques date du 5e siècle. 5e siècle en Europe de l'Est, d'abord. En revanche, les œufs au chocolat, eux, datent du... 19e siècle. Chère société de consommation. Alors, Nicodème doit naître de nouveau. Et bien sûr, il s'interroge, est-ce possible? On ne naît qu'une fois dans le ventre de sa mère. Nicodème se replie sur ses savoirs. Rassurons-nous, nous aurions répondu exactement la même chose. Comment est-ce possible? Naître de nouveau, naître d'en haut avec l'Esprit de Dieu, c'est nous laisser habiter par ce Dieu fou et tout amour. Naître d'en haut, c'est accepter la démesure, aimer sans relâche, singer nos peurs, transformer nos larmes en sourires. Naître d'en haut, c'est accepter d'être libre, d'entreprendre de grandes et belles choses, sans être bridé par quoi que ce soit. Naître d'en haut, c'est sortir de l'œuf, celui qui nous retient trop souvent tête baissée dans le noir de nos vies. C'est sortir libre pour aimer, espérer et vivre en paix. Naître d'en haut, c'est passer de la mort au tombeau vide pour remplir notre corps et notre esprit de la vie du ressuscité. Naître d'en haut, c'est accepter une chose insensée. Avec Jésus le Christ à mes côtés, je suis appelée à renaître chaque jour à nouveau. Comme l'exprime très bien un collègue pasteur, il n'est pas vrai que nous n'en finissons pas de vieillir. Il est vrai que nous n'en finissons pas de venir au monde. Dans la longue explication de Jésus à Nicodème, il entend le neuf, le possible, l'incroyable. Et il est appelé à laisser son intelligence de côté un moment pour le rejoindre dans la confiance. C'est la bonne nouvelle. Malgré nos quotidiens pétris d'humanité dans toute leur beauté, mais aussi dans toute leur laideur, nous sommes invités à voir au-delà des apparences, à nous regarder, à regarder les autres et le monde avec des yeux nouveaux, à quitter le terre-à-terre pour entrevoir un monde possible venu d'en haut et reçu en abondance. L'apôtre Paul l'explique à son ami Tite, les paroles entendues tout à l'heure dans la deuxième lecture. Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Nous pouvons recevoir sa vie pour toujours. Que ces paroles soient guides sur nos chemins et ferment du royaume qui vient en nous et dans le monde. Amen.